France Info.
Bonjour Yann Brossa.
Bonjour.
Pourquoi un électeur de gauche devrait voter pour vous le 26 mai prochain ?
Parce que nous sommes les seuls, nous les communistes, à avoir porté cette question européenne de manière constante et cohérente. Nous sommes la seule force politique de gauche à avoir rejeté tous ces traités européens ultralibéraux. Et puis nous sommes les seuls par ailleurs à avoir une liste à l'image de la société, 50% d'ouvriers, d'employés, je déposerai d'ailleurs notre liste ce matin, Marie-Hélène Bourlard en deuxième position, ouvrière, c'est la seule ouvrière qui peut, à l'issue du 26 mai, entrer au Parlement européen.
Sur les traités, la France insoumise dit la même chose que vous.
Oui, simplement, je dis que c'est un combat que nous menons depuis le départ. Dès 1992, dès le traité de Maastricht, le Parti communiste s'est opposé à ces traités, non pas parce que nous sommes anti-européens, mais parce que nous avons perçu très tôt l'ADN libéral de cette Europe. Et nous sommes convaincus que pour sauver l'Europe, il faut s'affranchir de ces politiques d'austérité, de la concurrence libre et non faussée qui fait que tant d'Européens se détournent aujourd'hui de l'Europe.
Renaud Dely.
Pour être très clair, Yann Brossa, à vos yeux, Jean-Luc Mélenchon n'est pas légitime pour contester l'Europe libérale parce qu'en 1992, il a voté le traité de Maastricht.
Moi, je ne suis pas pour entretenir quelques polémiques que ce soit avec d'autres partenaires
dites
à gauche.
Que vous êtes les seuls à être crédibles.
Je dis simplement que le Parti communiste, lui, à mener ce combat de manière constante. Et je pense que dans une période où il y a beaucoup de confusion, c'est pas mal d'avoir des partis politiques comme le Parti communiste qui peuvent être des repères précisément parce qu'ils n'ont jamais failli sur une question comme celle-là.
Vous avez soutenu Jean-Luc Mélenchon aux deux dernières élections présidentielles, l'élection majeure en France. Vous êtes quasiment marié depuis des années avec la France insoumise. Pourquoi divorcer le temps d'une élection ?
D'abord, ça n'est pas de notre fait. Le Parti communiste est toujours favorable à ce qu'on tende la main aux autres forces politiques de gauche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dispersion à gauche. Et donc, j'ai pris une décision pour ce qui me concerne, c'est que je n'ai pas envie de dire le moindre mot de travers sur les autres forces politiques de gauche. Je vais même vous dire une chose, il m'est arrivé de le faire par le passé. Eh bien, j'ai eu tort. Et je pense que dans une période où la gauche est aussi divisée et aussi dispersée, notre responsabilité à nous, c'est de ne pas nous taper dans les pattes. Et je pense que quand on s'allie ses partenaires de gauche, on se s'allie soi-même et on affaiblit son propre camp. Donc moi, je ne le ferai pas. Et je pense que tout le monde ferait bien de s'en tenir à cette espèce de code de bonne conduite.
Donc quand Raphaël Glucksmann, par exemple, pour parler de lui ce matin dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, dit que Jean-Luc Mélenchon est une sorte de Thatcher de gauche en France, vous ne direz pas la même chose ?
Non.
Non.
Non. Et je pense que ça n'est pas bien de faire ça. Et très sincèrement, de toute façon, on le sait, après le 26 mai, il va bien falloir que la gauche se reparle. Il va bien falloir qu'à un moment donné, on retrouve le chemin du rassemblement si on souhaite qu'un jour, la gauche puisse regagner à l'échelle nationale. Ou alors, ça veut dire qu'on laisse Macron d'un côté, Le Pen de l'autre, truster le paysage politique. Donc on va devoir se reparler. Donc n'insultons pas l'avenir et évitons de dire des mots aujourd'hui que nous regretterons demain.
Vous le dites vous-même, il faudra que vous vous reparliez, que vous vous entendiez après le 26 mai, dites-vous. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Le même Raphaël Glucksmann disait il y a quelques jours, il y a aujourd'hui des logiques de chapelle à gauche, des batailles d'égo. Il parlait d'une mentalité de videur de boîte de nuit qui empêche justement cette entente.
D'abord, il ne faut pas mépriser les videurs de boîtes de nuit. C'est un métier difficile, précaire et mal payé. Mais plus sérieusement, moi, je ne vois pas l'intérêt de dire ça. Je ne vois pas l'intérêt de dire ça. La réalité, c'est qu'il y a une force politique qui n'a pas arrêté de tendre la main à tout le monde au point de choper des crampes, c'est le Parti communiste. Simplement, je constate que ça n'est pas possible. Je constate par ailleurs...
À qui vous avez tendu la main ?
Pour être à notamment à Benoît Hamon et à Jean-Luc Mélenchon. Mais surtout, la question européenne, nous le savons, elle divise la gauche depuis longtemps. On parlait du traité de Maastricht, on pourrait parler du traité constitutionnel européen. Ce que je dis, moi, c'est que les Européennes, ça ne doit pas être la fin de l'histoire. Et qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'on se retrouve et qu'on bosse ensemble, de Raphaël Glucksmann jusqu'à Jean-Luc Mélenchon.
Dès les élections municipales de l'année prochaine, d'ailleurs,
bien
parce
sûr.
Que vous êtes adjoint à la maire de Paris et
bien
vous serez à nouveau à côté d'Anne Hidalgo l'année prochaine.
Bien sûr. Et par ailleurs, les élections européennes, disons-le aussi, ce sont des élections à la proportionnelle. Et les élections à la proportionnelle, c'est d'ailleurs la seule élection nationale qui est encore à la proportionnelle, ne sont pas les élections qui favorisent le plus les logiques de regroupement et de rassemblement.
Et Yann Brossa, Mediapart révèle que Nathalie Loiseau, tête de liste de la majorité à ces élections européennes, a été candidate d'un syndicat d'extrême droite lorsqu'elle était étudiante, donc il y a de ça pas mal d'années, lorsqu'elle était à Sciences Po dans les années 80. Elle n'aurait pas perçu, c'est ce qu'elle dit aujourd'hui, la couleur politique du syndicat pour lequel elle était candidate. Quelle est votre réaction ?
Ça fait longtemps, on a le droit de changer d'avis. Je crois que j'avais 4 ans quand elle était candidate sur cette liste. Cela dit, quand on voit toute la communication faite par La République En Marche qui se présente comme seul rempart face à l'extrême droite, c'est sûr que tout cela fait un peu désordre. Et puis par ailleurs, les explications qu'elle avance pour justifier le fait d'avoir été présente sur cette liste sont peu convaincantes. Quand elle dit « je n'ai pas perçu la couleur politique de cette liste », alors même qu'elle était en quatrième année de Sciences Po et qu'elle préparait l'ENA, c'est vrai que ça laisse pantois. C'est un peu la Richard Virenque de la politique. Elle était candidate à l'insu de son plein gré.
On a le droit de changer dans la vie,
oui,
quand même.
Oui, on a le droit de changer.
Vous, même par exemple, vous avez toujours été communiste. Ben vous êtes né communiste.
C'est vrai. Mais je pense, justement, que dans cette période de grande
confusion... Non, je vous pose la question. Vous avez toujours été communiste.
Je croyais que c'était une affirmation.
Non,
j'ai toujours été
question.
Communiste. Enfin, j'ai adhéré au Parti communiste à l'âge de 17 ans. Je suis adhérent du Parti communiste depuis une vingtaine d'années. Et je trouve qu'en tout cas, dans cette période, comme je vous le disais, de grande confusion, avoir des gens qui mènent des combats dans la durée, avec constance et avec cohérence, c'est pas mal. Au moins, quand on vote pour les communistes, on sait qu'ils ne changeront pas d'avis comme ils changent de chemise.
Vous êtes sûr que c'est toujours un atout, c'est toujours une qualité de ne jamais changer d'avis depuis des décennies? Vous rappeliez que le Parti communiste n'a jamais changé d'avis sur la construction européenne, n'a jamais évolué même depuis des décennies.
Eh bien, prenons cet exemple.
Si la réalité, elle, peut changer.
Mais non, c'est un excellent exemple. Parce que nous avons aujourd'hui une Union européenne qui compte 87 millions de pauvres, 45 millions de personnes qui n'arrivent pas à payer leurs factures de chauffage. Lorsque nous dénoncions dès 1992 ces logiques d'austérité, cette fameuse règle des 3%, cette concurrence libre et non faussée, eh bien nous n'avions pas tort.
Et pourtant,
parce que nous avions perçu avant les autres cet ADN.
Vous ne voulez pas cette Union européenne.
Vous ne voulez pas la quitter. Non. Et d'ailleurs, le Parti communiste n'a jamais dit qu'il faut quitter l'Union européenne. Nous avons toujours dit qu'il faut transformer l'Union européenne. Il faut faire en sorte que l'Union européenne soit autre chose que cette machine à fabriquer de la régression sociale. Après tout, à 27 États, on pourrait quand même avoir d'autres ambitions que le simple respect des 3% de déficit public. Ça ne fait pas une ambition de civilisation.
Yann Brossat, candidat des communistes à l'élection européenne du 26 mai prochain, est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. On s'interrompt quelques instants, il est 8h40 et Stéphane Milhomme nous rappelle l'actualité du jour.
Et France Télévisions a déjà gagné les Jeux Olympiques de 2024. Le groupe décroche l'exclusivité des droits télé en clair, ce qui lui permettra de diffuser toutes les compétitions. Les chaînes publiques diffuseront aussi en exclusivité les Jeux d'hiver en 2022. La présidente de France Télé, Delphine Ernot, parle d'un succès majeur pour le service public. La disparition du grand-duc Jean, ancien chef d'État du Luxembourg. Selon France Bleu Lorraine Nord, l'ancien souverain âgé de 98 ans était hospitalisé depuis plusieurs jours. Le grand-duc Jean a gouverné pendant 36 ans, jusqu'en 2000. Des petits déjeuners gratuits pour les écoliers des quartiers défavorisés. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, met sur la table aujourd'hui une enveloppe de 6 millions d'euros. Les établissements qui le souhaitent pourront proposer ces petits repas aux enfants, d'abord dans 8 académies test. Ce premier repas de la journée avant les cours devra être proposé en septembre dans les quartiers prioritaires de toute la France. Et puis Samsung repousse le lancement de son nouveau smartphone pliable. C'est un nouveau coup dur pour le leader mondial des smartphones. Le nouvel appareil, le Fold, a été testé par des journalistes américains. Il apparaît beaucoup plus fragile que prévu. La sortie était programmée pour vendredi. Un modèle à pas moins de 200$.
Info. Toujours avec Yann Brossat qui portera les couleurs communistes aux élections européennes et avec Renaud Dely.
Vous nous disiez à l'instant que vous vouliez changer cette logique de la construction libérale de l'Union européenne et que le Parti communiste n'avait pas varié d'avis, d'opinion sur cette question depuis des décennies. Comment allez-vous faire demain quand 21, 22, 25, 26 gouvernements en Europe sont précisément des gouvernements libéraux? Comment est-ce qu'on peut sortir de cette logique d'Europe libérale en étant aussi isolé que vous l'êtes?
Mais c'est une bataille permanente. Je vais vous prendre un exemple concret. Le quatrième paquet ferroviaire, celui qui a abouti à la loi sur la SNCF, c'est-à-dire la mise en concurrence du transport de voyageurs. C'est une disposition qui a été adoptée au Parlement européen à 24 voix près. C'est-à-dire que sur toute une série de sujets, même minoritaires, notre groupe de la gauche unitaire européenne, c'est 52 eurodéputés.
Sur 751.
Exactement. Mais ça signifie que même en étant 52, en ayant le courage et l'énergie pour convaincre les autres, on est presque au bout, puisqu'il nous a manqué 24 voix. Et sur toute une série de sujets, c'est la même chose. Donc ça vaut le coup de se battre à l'intérieur du Parlement européen, parce que beaucoup de choses se jouent là-bas. Et donc si on a envie que ça change en France, il faut aussi changer le rapport de force à l'intérieur du Parlement européen. C'est aussi ça qui se joue le 26 mai.
Yann Brossat, la crise des Gilets jaunes. Éric Coquerel, chez les Insoumis, estime ce matin que le gouvernement joue l'escalade week-end après week-end. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement joue, mise sur une forme de pourrissement de la situation. Et qu'à force de ne pas apporter de réponse politique, sociale, à un problème qui est un problème politique et social, le gouvernement entretient une situation qui, de mon point de vue, est extrêmement dangereuse. On verra bien quelles
sont... Il y a eu des réponses au mois de décembre. Il y a eu 10 milliards d'annonces sur le pouvoir d'achat. Il y en aura sans doute. Elles ont déjà fuité, d'ailleurs, dans les jours qui viennent. Ce sont des réponses, pour vous, qui ne sont pas à la hauteur.
Elles sont très, très en dessous des attentes des Français. Et puis surtout, il y a une espèce de tabou majeur dans l'ensemble des mesures prises par le gouvernement. C'est que jamais on ne met à contribution les gros portefeuilles. Jamais on ne met à contribution les ultra-riches. Savez-vous que depuis 10 ans, le nombre de milliardaires en France a été multiplié par 3. Et eux, on n'a pas le droit de les toucher. On a affaire à une espèce de caste de brahmanes qu'on n'a jamais le droit de mettre à contribution. Donc oui, ça choque beaucoup de monde. Ce sentiment d'injustice sociale est, à mon sens, au cœur de la crise politique que traverse notre pays.
Est-ce que le gouvernement est seul responsable de cette situation de tension qui se répète ? On a vu samedi une poignée de manifestants, quelques dizaines de manifestants, exhorter des forces de l'ordre, des policiers au suicide. Suicidez-vous, ont-ils lancé ? Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ces images ? Est-ce que là, c'est pas de la responsabilité du gouvernement ?
Ces propos sont évidemment inacceptables, odieux, au regard de la situation de beaucoup de policiers. Il y a eu des suicides de policiers, 28 je crois, depuis le début de l'année, et donc tout cela est évidemment à proscrire. Et évidemment que ceux qui ont tenu ces propos méritent d'être condamnés.
Ces casseurs, simplement, ces black blocs, on les voit aussi chaque semaine.
Moi, je n'ai pas envie de trouver une explication à tout ça. Ils méritent d'être condamnés, point barre. Cela dit, on a une situation qui est aujourd'hui une situation très dangereuse et qui est liée au fait que le gouvernement laisse cette situation perdurer depuis des mois. Ça fait 6 mois que le gouvernement est confronté à ce mouvement social et qu'il n'apporte pas de réponse sérieuse. Il n'y avait pas besoin d'organiser à grand renfort de communication ce grand débat national pour savoir que 70% des Français sont favorables au retour de l'ISF. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, alors même que c'est réclamé par les Français, alors même que tout le monde voit bien que c'est un cadeau honteux au regard des injustices sociales qu'il y a dans notre pays? Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie cette espèce de surdité du gouvernement sur une question pareille?
Un journaliste qui s'appelle Gaspard Glantz a été placé en garde à vue à l'issue de ce samedi. À l'issue de cette garde à vue, il a été une décision d'interdiction de paraître à Paris jusqu'à son procès qui a été fixé au 18 octobre et aussi une interdiction à son encontre de participer aux prochaines manifestations du 1er mai, de couvrir la manifestation du 1er mai. Est-ce que vous considérez, Yann Brossat, qu'aujourd'hui en France, comme le disent certains, la liberté de la presse est menacée?
Moi, je n'aime pas commenter les décisions de justice. Cela dit, c'est sûr que tout cela crée une drôle d'ambiance. Et qu'après tout, interdire à un journaliste comme lui de faire son travail, puisque ne plus pouvoir couvrir des manifestations alors même que son travail, c'est de couvrir des manifestations, c'est vrai que ça laisse interrogatif, en tout cas.
Est-ce que ça m'interroge. Il a été placé en garde à vue parce qu'il est journaliste ou parce qu'il avait fait un doigt d'honneur à un fonctionnaire de police? Ce qui n'est pas tout à fait
je
la même chose.
Je n'étais pas sur place, ouais, je ne suis pas capable de le dire.
Est-ce qu'il faut en faire un symbole de la liberté de la presse?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une drôle d'ambiance dans notre pays depuis quelques mois et que je crois que cette ambiance n'honore pas notre pays, qu'on qualifie souvent de pays des droits de l'homme.
C'est-à-dire que la justice fait mal son travail?
C'est-à-dire qu'il y a manifestement une volonté du pouvoir exécutif de faire un certain nombre d'exemples et qu'on a sans doute eu quelques pressions sur le parquet dans cette affaire.
Hier matin, Frédéric Pechnard, l'ancien patron de la police qui est aujourd'hui chez les Républicains, vous le connaissez bien, il travaille à la région Île-de-France, disait exactement l'inverse sur ce plateau. Il disait il y a une mansuétude du gouvernement, on arrête des gens, on les relâche immédiatement, vous nous dites le contraire.
Il est de droite.
Et vous êtes de gauche.
Voilà.
Bon, il n'a pas eu la chance de naître communiste comme vous.
Non. Mais il peut changer d'avis.
L'un des élus parisiens de gauche qui siège avec vous, Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, qui siège dans la même municipalité que vous, aux côtés de d'Anne Hidalgo, il expliquait en revanche à l'issue de la journée de samedi, je le cite, que la responsabilité première des violences auxquelles on a assisté, c'est celle des casseurs, mais aussi des manifestants qui, en proximité des casseurs, se rendent complices ou sont instrumentalisés par les casseurs.
Moi, je vais vous dire le fond de ce que je pense. Il y a évidemment des casseurs qui se greffent aux manifestants. Et d'ailleurs, on a eu ça bien avant le mouvement des Gilets jaunes. On l'a eu le 1er mai dernier. Pour le coup, le 1er mai, moi, je participais à la manifestation et j'ai vu à quel point cette manifestation a été, Donc, transformé par la présence d'un certain nombre de casseurs.
Donc simplement, la responsabilité première, comme le dit Emmanuel Grégoire, c'est bien celle des casseurs.
Enfin, il y a une responsabilité politique. Je veux bien qu'on tourne les choses dans tous les sens. La réalité, c'est qu'on a un problème politique et on ne répond pas à un problème politique et social uniquement par des mesures sécuritaires. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est qu'on a changé de préfet. C'est bien la peine de changer de préfet. Ils ont changé de préfet et la situation, elle est la même. Donc c'est la preuve que le vrai problème, c'est un problème politique. Et en réalité, on épuise les policiers samedi après samedi, précisément parce que le gouvernement n'a pas pris la mesure de la crise politique et sociale que nous traversons et n'a donc pas apporté des réponses politiques et sociales à la hauteur.
Quelle est la réponse que vous attendez de la conférence de presse d'Emmanuel Macron après-demain? Est-ce qu'il y a une mesure symbolique ou un peu plus que ça qui vous permettrait, selon vous, de sortir de cette crise?
Du sonnant et du trébuchant pour les classes moyennes et les familles modestes, l'augmentation du SMIC, une vraie augmentation des retraites, comme nous le réclamons depuis longtemps, et de la justice fiscale. Il n'est pas normal que les plus riches de notre pays ne soient pas mis à contribution. Une lutte résolue contre l'évasion fiscale. Par exemple, comme nous le proposons, la taxation à la source pour les multinationales. Si le gouvernement a été capable de mettre en place la taxation à la source pour les familles, on ne voit pas pourquoi ça n'est pas possible de le faire sur les multinationales. D'ailleurs, les communistes ont déposé une proposition de loi en ce sens et le gouvernement serait bien inspiré de la regarder d'un peu plus près.
C'est un sujet sur lequel la candidate de la France Insoumise, Manon Aubry, qui a été longtemps chez Oxfam et qui en avait fait l'un de ses combats, est très en pointe aussi.
Mais
c'est un sujet aussi sur lequel vous auriez pu vous entendre
tout
avant.
Tout le monde devrait quand même trouver scandaleux que ces grosses boîtes réussissent à échapper à l'impôt. Enfin, c'est quand même invraisemblable d'aller
taxer. Quel
montant
cette taxe, pour vous?
Nous verrons bien. On sait que si les multinationales étaient taxées de la même manière que les PME, ce serait 10 à 15 milliards d'euros qui rentreraient dans les caisses de l'État. C'est autre chose que la taxe GAFA annoncée par Bruno Le Maire qui va rapporter 500 millions, peut-être en 2020, c'est-à-dire cacahuètes.
C'est un premier pas, non, la taxe GAFA, non?
C'est un tout premier pas. Un peu ridicule d'ailleurs, quand on voit le gouvernement présenter comme une grande victoire cette taxe GAFA qui va rapporter 500 millions alors même
reste de l'Europe libérale n'a pas voulu le faire.
Ben oui, mais
si c'était si facile, Yann Brossat, si c'était si facile, pourquoi il n'y a pas d'autres pays qui l'ont déjà mis en place?
Mais parce qu'il n'y a pas de volonté politique de le faire aujourd'hui. Et excusez-moi.
Donc en France, il y a une volonté politique.
Vous vous rendez compte? Mais je vais vous donner un exemple très simple. L'autre jour, j'ai rencontré les responsables de Google France. Trois jours après qu'on ait appris qu'ils aient planqué 20 milliards d'euros aux Bermudes. Vous vous rendez compte qu'ils touchent du CICE? Voilà une boîte qui arnaque le fisc et à laquelle, en plus de ça, l'État fait des chèques sous forme de CICE. Et quand j'ai discuté avec eux, ils m'ont dit « mais c'est pas de notre faute, on est un peu gênés, on n'a pas demandé à recevoir le CICE, mais on le reçoit automatiquement, il y a quand même un petit sujet. Donc on va pas me faire croire que le gouvernement est très volontaire en matière de lutte contre l'évasion fiscale, alors même qu'il continue à leur faire des chèques. »
Yann Brossat, vous restez avec nous, 9h-10, Stéphane Milhomme pour le rappel de l'actualité.
Avec un séisme de magnitude 6,3 enregistré ce matin dans le centre des Philippines, c'était sur l'île de Samar. Pas encore de précision sur d'éventuelles victimes, mais ce séisme intervient au lendemain d'un tremblement de terre meurtrier, lui, dans le nord de l'archipel. Le Sri Lanka observe 3 minutes de silence après les attentats de Pâques. Selon un dernier bilan, les attaques suicides ont causé la mort d'au moins 310 personnes, dont un touriste français selon les autorités locales. 500 blessés également. Une quarantaine de suspects ont été interpellés ces dernières heures après ces différentes attaques. Avec un ciel voilé, gris et parfois jaunâtre, de la Bretagne au Hauts-de-France, 4 départements restent concernés ce matin par l'alerte à la pollution de l'air, la présence de particules fines aggravées par des vents du Sahara, dans le Nord, le Pas-de-Calais, le Finistère et les Côtes d'Armor, avec l'obligation de respecter des limitations de vitesse, notamment 20 km/h en moins sur les axes autoroutiers. Dans le Tarn-et-Garonne, un gilet jaune en garde à vue après avoir apposé le slogan « Flic suicidé à moitié pardonné » sur sa camionnette. Cet homme de 69 ans doit être présenté dans la journée au parquet de Montauban. Il devrait être poursuivi pour outrage à agent. Ce sont des passants qui ont prévenu les forces de l'ordre. Et puis les footballeurs de Metz aux portes de la Ligue 1. Le club, actuellement leader de Ligue 2, peut définitivement valider sa montée ce soir à partir de 20h face à son public en remportant le match qui l'oppose à Grenoble.
Toujours avec Yann Brossat qui portera les couleurs du Parti communiste français aux élections européennes. Renaud Dely.
Emmanuel Macron doit s'exprimer jeudi pour présenter ses propositions de sortie du grand débat. On sait que le président de la République envisage de demander aux Français de travailler davantage pour financer les baisses d'impôts. Il y a une piste qui est défendue par certains élus de la majorité qui serait celle de la suppression d'un jour férié. Est-ce que c'est une hypothèse envisageable pour vous, une deuxième journée de solidarité?
Ce sont vraiment des génies, hein, parce que ça fait maintenant 6 mois que les Français manifestent pour demander que le travail paye. Et la réponse du gouvernement, c'est une journée de travail gratuit. Faut le faire quand même. Donc je pense qu'on a affaire quand même à un drôle de gouvernement et à une forme d'ignorance de ce qui monte partout dans notre société que je trouve hallucinante. Hallucinante. Une journée de travail gratuit. On va faire bosser les Français pour rien. Pour rien. C'est-à-dire que pendant une journée, en plus de celle qui existe déjà, ils vont travailler sans être payés. Mais c'est quand même une drôle de manière de répondre à la demande de justice sociale et de pouvoir d'achat.
Mais en l'occurrence, cet effort serait demandé par le pouvoir, soit pour financer des baisses d'impôts, soit pour financer la dépendance, qui est un grand enjeu des décennies à venir. Mais comme le lundi de Pentecôte lui-même, lorsqu'il a été supprimé, a été demandé dans cette...
C'est une conception étrange de la solidarité. Dans un premier temps, vous vous souvenez, le gouvernement a dit « il faut que les retraités soient solidaires des actifs ». C'était la fameuse augmentation de la CSG qui a pesé sur le pouvoir d'achat des retraités. Maintenant, le gouvernement dit « c'est aux salariés d'être solidaires des retraités ». Mais c'est toujours aux gens modestes avec eux d'être solidaires entre eux. Mais jamais on ne demande à ceux qui ont beaucoup, à ceux qui touchent parfois des revenus absolument astronomiques, d'être solidaires du reste de la société. La réalité, c'est que nous avons, dans notre société, une sécession des plus riches, qui, eux, se gavent, s'enrichissent en dormant, et auxquels on ne demande jamais le moindre effort. Donc oui, moi j'ai une autre proposition à faire, c'est une journée du patrimoine des plus riches. Vous savez que les 358 000 familles les plus riches de France ont un patrimoine de 1 000 milliards d'euros, c'est celles qui auparavant payaient l'ISF, et bien je propose qu'une fois par an, elles donnent un 365e de leur patrimoine, ça fera rentrer 3 milliards d'euros dans les caisses, c'est-à-dire exactement ce que va rapporter la mesure envisagée par le gouvernement, mais qui, elle, pèse sur les salariés sous forme de journée de travail gratuite.
Vous parlez des Français les plus riches. Qu'est-ce que vous pensez des millionnaires et milliardaires qui ont donné parfois des sommes importantes pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame à Paris ?
Qu'ils donnent ne me choque pas. Qu'ils bénéficient de déductions fiscales me choque en revanche. Donc moi je suis tout à fait favorable à ce qu'ils donnent, mais s'ils aiment le patrimoine, qu'ils donnent.
Beaucoup y ont renoncé à ces déductions fiscales.
Eh bien c'est très bien. J'aimerais que tous fassent la même chose et qu'il n'y en ait pas qui bénéficient de déductions fiscales. Parce que ça en revanche je trouve ça choquant étant donné le contexte qu'on a aujourd'hui dans notre pays.
Un mot sur les loyers dans la capitale. Est-ce que vous savez quand l'encadrement des loyers sera à nouveau mis en place ?
Eh bien, je suis tenté de vous dire que je prie tous les jours pour que ce soit en juin. En tout cas, la ville de Paris a tout fait pour que ça puisse s'appliquer en juin.
Qu'est-ce qui bloque ?
Il faut encore un arrêté préfectoral. Donc il faut que le préfet fixe le montant maximum des loyers quartier par quartier. Dès lors que ce sera fait, ce sera appliqué. Donc, au plus tard, au mois de juillet. En tout cas, le plus tôt sera le mieux, parce que je sais à quel point beaucoup de Parisiens souffrent de loyers trop chers. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à Paris que ça peut s'appliquer.
Évidemment.
Je sais que d'autres villes ont bien l'intention de s'engouffrer dans la brèche, et elles ont bien raison.
Est-ce que pour revenir à des loyers un peu plus raisonnables, il ne faudrait pas aussi interdire les locations Airbnb dans la capitale ?
En tout cas, il faut les limiter drastiquement, parce que ça prend une dimension folle. D'ailleurs, vous savez que c'est aussi une problématique européenne, parce que Airbnb bénéficie d'une grande mansuétude de la Commission européenne qui aujourd'hui ne reconnaît pas la responsabilité des plateformes.
Ce qui n'a pas empêché certaines villes comme Barcelone, je crois, de limiter bien plus drastiquement que Paris les conditions de location en Airbnb, non ? Vous faites non de la tête, j'ai tort.
Sauf que Barcelone est comme nous, ouais. Comme Paris et comme Berlin, confronté une sollicitation qu'Airbnb a faite auprès de la Commission européenne pour faire annuler l'ensemble de nos législations. Vous vous rendez compte quand même qu'on a des élus qui travaillent pour réguler Airbnb et aujourd'hui Airbnb qui se tourne vers la Commission européenne en disant annuler les dispositions qui ont été prises dans ces collectivités-là. À un moment donné, il va quand même falloir qu'on se demande si on vit encore en régime démocratique. En démocratie, les élus du peuple, les élus locaux sont quand même pas les plus mal placés pour savoir ce qui est bon pour leurs habitants.
Donc aujourd'hui, en tant qu'adjoint chargé au logement de la mairie de Paris, vous êtes impuissant devant l'extension d'Airbnb dans la capitale ?
Pas impuissant, nous bataillons, nous avons tout un dispositif de contrôle qui porte ses fruits puisque Airbnb ne croît plus aujourd'hui à Paris, n'augmente plus aujourd'hui à Paris.
On est à combien d'appartements loués aujourd'hui ?
On est à 50 000. Aujourd'hui, c'est heureusement stabilisé après des années de hausse ininterrompue. Cela dit, nous sommes sous la menace d'une décision de la Commission européenne sur le sujet, puisque le droit européen est terriblement favorable à Airbnb, qui bénéficie de 3 lobbyistes qui sont là matin, midi et soir à Bruxelles pour faire valoir leurs arguments auprès de la Commission européenne.
Ce sera un des points du projet que vous porterez lors des élections municipales l'année prochaine ?
Ah oui, je pense que ça doit être un des points aux élections municipales, aux élections européennes. En tout cas, cette question de la régulation des multinationales est une question fondamentale, parce qu'on a aujourd'hui affaire à des entreprises plus puissantes que des États, plus puissantes que des villes, y compris des villes capitales comme Paris. Et donc, si nous ne sommes pas capables de reprendre le pouvoir face à ces multinationales, le risque, c'est que nos villes, nos territoires soient complètement transformés.
Et donc l'année prochaine, vous serez allié cette fois-ci avec Anne Hidalgo et le Parti
Socialiste. Je n'en sais rien du tout, nous verrons bien. Je suis aujourd'hui candidat aux élections européennes et j'y consacre toutes mes forces et toute mon énergie.
Merci à vous Yann Moissa d'être venu ce matin sur le plateau de France Info. Dans deux minutes précisément, il sera 9h.